Et bienvenue à toutes et à tous autour de la grande table d'été, comme tous les jours, deux parties avec de la musique au milieu. Aux alentours de 13h30, ce sera l'heure de la session musicale programmée par Boris Pinault. Aujourd'hui, ce sera Rupert Pupkin et puis nous recevrons l'artiste Nicolas Darrow, dont on peut voir une monographie à la Maison Rouge à Paris. Mais tout de suite, place à la table ronde, on parle de films d'horreur. L'été fleurit sur les grands écrans des films au nom dur à certaines oreilles cinéphiles, Conjuring 2, Annabelle ou encore Saw 3D chapitre final. Et pourtant, ces films, ou du moins certains d'entre eux, méritent qu'on les voie. Ces énormes franchises ont un grand ancêtre, Scream, la série de Wes Craven, dont le premier film fête cette année ses 20 ans, et même la Cinémathèque s'en fait l'écho, alors pourquoi pas nous ? On en parle avec 4 invités, ici, en plateau avec moi, Emmanuel Levauffre, réalisateur, critique et auteur de Wes Craven, à paraître chez Capricci cet automne, Pascal Français, écrivain, auteur de Torture Porn, l'horreur postmoderne paru chez Rouge Profond, en duplex depuis Toulouse, Bertrand Mandico qui est réalisateur de plusieurs courts-métrages, et puis par téléphone Alain Boila, professeur en histoire et esthétique du cinéma à l'université de Lausanne. Il nous parlera du rôle des technologies et notamment du téléphone dans le cinéma de Wes Craven. Bonjour à tous.
Bonjour,
Scream,
bonjour.
C'est donc 1996, 20 ans donc. Est-ce que vous l'aviez vu au cinéma?
Oui,
Emmanuel
l'ai vu
Levauffre.
À sa sortie. Et ben j'avais plutôt beaucoup aimé, bien que le film à l'époque était inégalement reçu par les amateurs de films d'horreur. Je crois que j'étais un amateur de films d'horreur, mais bon.
Alors ceux qui ne l'aimaient pas, qu'est-ce qu'on lui reprochait à ce film?
On lui reprochait de prendre le genre, je sais pas si on peut appeler ça un genre, mais disons le, bon, on va appeler ça un genre, ce sera plus simple, le genre du slasher de haut, en s'en moquant.
Alors le slasher, il faut préciser, le slasher c'est une sous-catégorie du genre.
Le slasher, les slashers, ce sont les films qui imitent Halloween de John Carpenter en gros. Donc on a toujours un groupe de jeunes gens, soit des lycéens, soit des étudiants qui vont se faire tuer les uns après les autres par...
Tuer à l'arme blanche.
Tuer à l'arme blanche, oui effectivement, c'est important.
Tout le titre aussi, oui.
Et par un tueur qui souvent s'avère une sorte de force surnaturelle puisqu'il s'avère en général invincible.
Pascal Français.
Oui.
Vous l'aviez vu au cinéma?
Je l'ai vu aussi au cinéma. Je dois dire que j'étais assez dubitatif, à vrai dire, après l'avoir vu. Je trouvais pas qu'il prenait le slasher de haut, mais qu'on en parlait comme un film révolutionnaire qui changeait complètement les donnes et qui se moquait des codes du sous-genre. Et pour moi, il reste très fidèle aux codes. Alors certes, il les parodie un peu, mais il les observe tous. Pratiquement tous les codes du sous-genre sont respectés dans le film. Donc je trouvais que, comme souvent d'ailleurs pour moi en ce qui concerne Wes Craven, qui est un cinéaste très intelligent, extrêmement intelligent, mais qui est aussi très roublard. Et pour moi, il y avait cette part de roublardise au départ qui m'avait un petit peu embêté, quoi, je dois dire. Et je me suis mis à l'apprécier plus après en l'étudiant et en travaillant dessus.
Bertrand Mandico, vous l'aviez vu en salle, Scream en 1996?
Oui, bien sûr. J'étais marqué par cette notion de mise en abîme qui était présente dans les derniers films de Wes Craven, en tout cas ceux qu'il avait fait avant Scream. Et alors, moi, je vois un peu Wes Craven dans ce Scream comme un professeur de cinéma idéal, quoi. Donc, il nous donne des cours de cinéma d'horreur au travers de son film de façon extrêmement ludique.
Alors, vous êtes réalisateur. Qu'est-ce que vous avez retenu comme règle du professeur Wes Craven?
Bah justement, jouer avec la mise en abîme, c'est peut-être une posture assez postmoderne, mais le spectateur actuel n'est plus vierge de films d'horreur ou de films tout court, donc c'est vraiment cette idée de jouer avec le spectateur.
On va y revenir à cette question de mise en abîme, mais on va commencer par le début. Et le début pour Wes Craven, c'est un premier long métrage, La dernière maison sur la gauche, sorti en 1972. Un groupe de garçons, quatre garçons psychopathes qui ressemblent un peu à la bande d'Orange Mécanique, violent deux jeunes filles qui sont parties en vacances toutes les deux. Et puis la deuxième partie du film, ce sont les parents de l'une d'entre elles qui vont se venger. On écoute un extrait de la bande-annonce.
Marie, Phyllis, deux amis.
Je me sens femme pour la première fois de ma vie.
Deux jeunes filles, deux banlieusardes qui décident d'aller en ville pour s'amuser.
Je vous présente mon copain Wesel.
Salut.
Ça c'est ma sœur, Martha. Oui, elles sont venues voir si on peut leur filer de l'herbe.
Quatre tueurs, quatre évadés de prison. eux aussi veulent s'amuser. Ils se retrouvent tous dans la dernière maison sur la gauche. Ce qui avait commencé par un anniversaire va devenir un cauchemar.
Merci. Tiens, c'est un cadeau pour toi.
J'en veux pas.
Mais si, prends-le.
J'en veux pas.
Je veux être ton ami. Je veux être ton ami.
Je tirais.
Qu'est-ce qu'il y a?
Rien. Rien.
Que se passe-t-il dans la dernière maison sur la gauche?
Emmanuel Lefauvre, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui est déjà en germe dans ce premier film de l'esthétique Wes Craven? C'est quand même très différent, on l'entend.
C'est très différent. C'est, bon, à mon avis, beaucoup mieux. Mais c'est très différent d'abord parce que La Dernière Maison sur la Gauche, c'est pas un film hollywoodien. Et Wes Craven, au départ, c'est pas un cinéaste hollywoodien, c'est un cinéaste de New York qui travaille dans ce qu'on appelle l'exploitation, dans le cinéma d'exploitation. Et à l'époque, le cinéma d'exploitation, quand il réalise La Dernière Maison sur la Gauche, c'est le cinéma érotique. Et en plus, c'est en train de devenir le cinéma porno. Donc La Dernière Maison sur la Gauche a été conçue initialement comme un hardcore, même si au dernier moment les Craven avait, et les acteurs ont décidé de ne pas le filmer comme un hardcore, c'est-à-dire avec des séquences de pénétration non simulées.
Ah, c'était prévu au départ que ce soit beaucoup plus difficile que ça.
Ah oui, 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 enfin, beaucoup plus dur, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'était prévu comme un hardcore, et d'ailleurs, il y a un des acteurs qui avait joué dans un film de Gérard Damiano, qui n'avait pas encore fait Deep Throat, qui est Fred Lincoln, très bon acteur, par ailleurs, et qui est quelqu'un qui a fait l'ensemble de sa carrière dans le hard américain.
Parce que c'est un film qui est quand même beaucoup plus difficile à regarder que Scream, par exemple. On a l'impression que ça s'est polissé, Wes Craven, au fil des années.
Je pense pas que ça se soit polissé au fil des années. Ça s'est polissé d'un coup, à partir du moment où il va travailler à Hollywood. Scream n'est pas plus polissé que La Ferme de la Terreur, qui est un de ses premiers films hollywoodiens, par exemple. C'est pas la même chose, c'est pas du tout la même chose. Déjà, dans La Dernière Maison sur la Gauche, il n'y a pas de suspense. C'est un pur film d'horreur, c'est de l'horreur sans suspense. Tandis que dans Scream, il y a peut-être de l'horreur, mais il y a aussi du suspense, et ça joue sur le suspense. Et je pense qu'on a là une grande différence entre le film d'exploitation et le film hollywoodien, l'importance du suspense. Je crois que plus on a d'horreur et moins on a de suspense, plus on est dans l'exploitation, en tout cas dans les années 70, c'est un peu différent aujourd'hui. Et plus on a de suspense, moins on a d'horreur, plus on est dans le cinéma hollywoodien.
Pascal Français.
Oui, je rejoins tout à fait.
Vous avez écrit, vous, un livre sur le torture porn, qui est donc, vous allez nous expliquer ce que c'est, une sous-catégorie du film d'horreur. Est-ce que, par exemple, La Dernière Maison sur la Gauche, c'est du torture porn?
Pour moi, ça ne s'apparente pas vraiment, parce qu'il n'y a pas. On est plutôt dans ce qu'on appelle le rape and revenge, c'est-à-dire des films de vengeance après viol, d'héroïne qui se venge. Bon. Et qui est un aspect, d'ailleurs, qu'on va retrouver dans Scream, quelque part. Parce que la mère de l'héroïne a été violée et il y a toute une histoire autour de ça. Bon, bref. En fait, pour moi, non, ça rentre pas dans le torture porn parce qu'il n'y a pas cette notion, d'une part, déjà de torture organisée, préparée. C'est une violence brute qui éclate, mais qui est très éruptive, quoi, en fait. Mais il n'y a pas tout ce côté calcul, on va torturer les gens. Bon. Et ensuite, c'est un film, oui, évidemment, très très violent. Mais je ne fais pas entrer dans le torture porn, ni son remake, d'ailleurs, qui est idéologiquement complètement l'inverse, mais qui par contre a exactement la même approche de la violence.
C'est-à-dire idéologiquement complètement l'inverse?
C'est un film complètement hyper conservateur, le remake, quoi. Autant le premier film était une critique de la famille américaine de l'époque. Bon, c'est une sorte de métaphore sur la guerre du Vietnam, mais aussi vraiment une analyse de la famille américaine et qui est très critique. Toute la famille est cassée, détruite à la fin, s'entre-dévore, s'entre-tue si on en veut. Et tandis que dans l'autre, c'est totalement l'inverse. La famille est recomposée, on va recréer une famille américaine. On trouve même l'un des agresseurs qui va être adopté par la famille qui a été agressée. On est dans l'inverse complet, quoi. Ça n'a absolument rien à voir, quoi.
Alors, qu'est-ce que c'est le torture porn? C'est quoi les éléments types de cette catégorie-là?
On va dire qu'en fait, le torture porn, ça s'est déclenché donc aux alentours des années 2000-2004 avec Saw. Et ce sont des films qui sont mis à traiter de la torture, de personnages qui ont torturé d'autres, et de façon assez systématique. Bon, Saw, la série est basée là-dessus. C'est un personnage qui nappe des gens pour les torturer, pour leur apprendre à aimer la vie, quoi. Bon, suite à ce succès, il y a eu plein d'autres films comme Hostel qui ont été faits où la torture devenait le thème principal. Bon, on a même considéré qu'un film comme La Passion du Christ était un torture porn aussi à cause de la violence. Et en effet, on est dedans, quoi. Bon. Et donc un sous-genre très populaire qui est aussi à mettre en relation avec le contexte politique de l'Amérique de l'époque, avec Abu Ghraib et la découverte des camps. Et je pense qu'il y a une résonance, même si ce n'est pas...
Sur ces résonances-là, vous parliez, mais c'est vous qui parliez de ça, Pascal Français, très allusivement, mais peut-être on va y revenir, de la guerre du Vietnam. En effet, Wes Craven avait à cette époque-là, donc dans les années 70, de ses propres dires, regardé beaucoup de documentaires à la fois sur la Seconde Guerre mondiale et sur la guerre du Vietnam. C'est pas pareil de représenter l'horreur dans ce type de contexte. On pourrait d'ailleurs aussi se poser la question aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire de montrer dans un film des gens qu'on poignarde, qu'on égorge, dans un monde qui est par ailleurs totalement saturé d'images d'horreur. Qu'est-ce qui passe de l'horreur réelle dans le cinéma de Wes Craven, Emmanuel Le Vouffre?
Alors, il faudrait distinguer, je pense, entre La Dernière Maison sur la Gauche, qui est quand même à part, et puis les films qu'il a fait par la suite, je dirais même La Colline à des yeux, qui est son deuxième film d'horreur, parce que c'est un film qu'il a fait pour quitter l'exploitation et arriver à Hollywood. Alors, qu'est-ce qui passe? C'est bizarre ce qu'il a pu dire sur le Vietnam et sur le côté allégorique, parce qu'on ne le voit pas vraiment quand on regarde le film. Peut-être qu'il y a un rapport, en revanche, avec une sorte de désir de mort un désir de mort que Craven mettrait en évidence, y compris dans les familles américaines les plus apparemment apaisées, sereines, bienveillante, puisque la famille en question, c'est la famille d'un médecin de campagne, avec une épouse qui est pieuse, une famille par ailleurs avec une seule fille très aimée, enfin qui semble un peu presque le cliché de la famille idéale. Et bon, il se trouve que ce que font les parents aux agresseurs... D'ailleurs, je ne sais même pas si on peut parler de revanche, parce que c'est tellement... Pascal Français parlait de violence éruptive. C'est à la fois préparé, mais on n'a même pas l'impression qu'ils discutent. Quand on parle de revanche, on parle quand même d'une exigence de justice. Même si c'est une justice qu'on peut contester. Enfin, c'est œil pour œil, dent pour dent. Il y a l'idée d'un équilibre. Là, à aucun moment, il ne demande des comptes aux agresseurs. À aucun moment. C'est très étrange, on ne sait pas très bien ce qui se passe dans leur tête, on les voit réfléchir, et puis ils passent ensuite aux actes. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les agresseurs ne deviennent pas immédiatement des victimes, enfin les agresseurs des filles ne deviennent pas des victimes, puisque évidemment ils se défendent, et pendant un moment on pense même que Krug, le chef de la bande, va prendre le dessus.
C'est le moment de ta dernière question. Donne le titre du remake qui a révolutionné.
Halloween, les griffes de la nuit, la colline à des yeux, massacre à la tronçonneuse, la maison de cire, l'armée des morts, vendredi 13, Amityville, meurtre à la Saint-Valentin. Alors, tu vas me dire si c'est ça?
T'as tout faux!
Et une des caractéristiques de Scream et des films d'horreur en général, c'est que ce sont des films ultra référencés. Donc là, on l'entend, une future victime énonce des tas de titres de films d'horreur qui précèdent le film. En l'occurrence, là, c'est Scream 4, donc c'est le dernier de la série. On dit par exemple que Psychose d'Hitchcock est le premier slasher. Un slasher, donc le fameux film d'horreur dans lequel on agit à l'arme blanche. Donc en effet, bon, dans Psychose, le couteau est bien présent. Il y a d'ailleurs dans Scream 2 une très nette référence à Psychose. Il y a un plan au cinéma vers un pommeau de douche qui s'allume, qui est vraiment une copie de plan de Psychose. Est-ce qu'en 72, quand Wes Craven commence à travailler ce genre-là, il préexiste une catégorie film d'horreur aux États-Unis?
Oui, largement, oui, bien sûr, oui. Surtout dans le domaine de l'exploitation dans lequel il travaillait, quoi, donc qui était très marginal, très des tout petits budgets, des conditions d'indépendance complète. Ça existait, il y avait une très longue tradition. Il y avait dès les années 50, ça existait déjà. Bon, les années 60, il y avait beaucoup de productions très 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 marginales, comme celle de Herschel Gordon Lewis, qui a été le créateur du cinéma gore, avec des films extrêmement sanglants, avec des effets spéciaux bricolés. Donc c'est vraiment une tradition d'une violence au cinéma dans un contexte d'horreur. Donc réaliste, là on n'est plus dans le fantastique, on n'est plus dans les apparitions surnaturelles et tout ça. Et c'est ce qui est intéressant dans Scream d'ailleurs, je pense qu'on pourra peut-être y revenir, c'est que cette fois-ci le tueur n'a plus rien d'invincible et n'est plus une espèce de machine à tuer absolument inaccessible et qui revient de film en film, c'est plus le cas du tout. Et donc voilà, c'est vraiment une tradition de l'horreur réaliste qui existait, qui était très très riche, quoi. Bon.
Psychose, par exemple, c'est un slasher, on peut dire ça ?
Moi, je le considère pas vraiment comme un slasher parce que, si vous voulez, c'est pas, ça a amené certaines thématiques qui ont été reprises ensuite dans le slasher. Mais on n'est quand même pas dans cette situation d'un groupe de jeunes adolescents. Bon, là, au contraire, on est quand même dans l'univers de personnages adultes. C'est un film très sérieux, très réflexif, et il n'y a pas tout le côté ludique qu'on va trouver ensuite dans les Vendredis 13 ou dans un film comme Halloween. Donc ça a influencé, c'est sûr, ça a apporté des thématiques, mais pour moi, je fais pas vraiment entrer dans la catégorie des slashers, comme par exemple un film comme Le Voyeur, qui a été fait à la même époque, qui lui aussi amène des idées, mais qui est quand même très différent dans le fond de l'univers des slashers.
Bertrand Mandicot, sur cet aspect ultra référencé du film d'horreur, est-ce que c'est une caractéristique du genre pour vous ?
Pas forcément. Enfin, vraiment pour moi c'est Scream qui a ouvert cette porte. Hein, cette idée vraiment de jouer avec le spectateur, un petit peu comme si on était arrivé à un point de non-retour par rapport aux décennies précédentes et comment réinventer le film d'horreur, comment le renouveler. Donc cette idée géniale de travailler sur la mise en abîme, quoi. Dans son premier film, je vois aussi une dimension extrêmement underground, quoi, hein, qui a chez Craven la dernière maison sur la gauche est un film très brut qui est peut-être l'essence du cinéma de Wes Craven, ce rapport à la barbarie qui selon Wes Craven est à l'origine de la culture américaine, quoi.
Le tueur demande toujours du coup à ses victimes ce qu'on entendait, hein, ce que sont leurs films d'horreur préférés. C'est un motif qui revient depuis Scream 1 jusqu'à Scream 4. Et les victimes sont toujours plus ou moins des spectateurs de films d'horreur. À quoi tient quand même cette affinité du film d'horreur avec lui-même ? On a vraiment l'impression que c'est un genre qui se regarde en permanence et depuis longtemps, Pascal Français.
Oui, je crois qu'il se regarde en permanence depuis longtemps, mais comme tous les genres, je veux dire, vous prenez le western, vous trouvez des références à d'anciens films.
J'allais dire le western, mais en dehors du western, il y a quand même peu de genres où les codes sont aussi redondants en permanence.
Là, c'est vrai que c'est vraiment un genre qui joue beaucoup sur la répétition, ne serait-ce déjà qu'à travers l'idée d'une franchise, c'est-à-dire d'une série de films, on est encore dans la répétition. Les fans du genre vont voir les films plusieurs fois, vont les regarder en boucle, on est encore dans la répétition. Donc on est vraiment là-dedans. Alors c'est vrai que c'est Scream, tout à l'heure on parlait de postmodernisme, mais c'est vraiment Scream qui a déjà amené dans le vocabulaire critique en France le terme postmoderne, qui était jamais employé, qui était absolument inconnu, qui reste d'ailleurs très mal compris, je pense, par pas mal de gens, parce que lorsque Craven est mort, tout le monde disait grand cinéaste postmoderne, personne n'explique ce que c'est. Bon. Mais donc Scream a vraiment amené cette dimension. Appuyé sur cette dimension référentielle, quoi. C'est-à-dire, il l'a vraiment mise en avant. Même si ça a toujours existé, il l'a mise en avant. Et il en a fait un jeu. Donc, ce qui est la définition du postmodernisme, qui est, enfin, du moins, en ce qui est au niveau artistique et créatif, c'est-à-dire, c'est jouer avec les conventions, les codes et les distordre et, voilà, les utiliser d'une autre façon, quoi.
Emmanuel Le Vauffre.
Alors je crois que déjà quand on parle de genre, ça ne marche pas, en tout cas pour le film d'horreur, parce que le film d'horreur c'est pas nécessairement le slasher. Je pense que Scream ça ne marche que pour le slasher, et que qui est un genre, si on veut appeler ça comme ça, extrêmement codifié effectivement, puisque quand Carpenter réalise Halloween en 76, on peut dire qu'il réalise une sorte de prototype industriel qui est stylistiquement parfait et qui, après, on dirait que c'est fait vraiment pour être ensuite décliné. Et c'est pour ça que je ne crois pas du tout que Psychose soit un slasher ou un proto-slasher. Je suis d'accord avec Pascal Fransac, ça apporte peut-être un thème ou une thématique, mais Psychose, c'est un film qui casse les codes. Pensez à l'assassinat du personnage de Marion de Crène sous la douche. Enfin, cette scène, c'est très célèbre. C'est quand même au bout d'une demi-heure de film, et on s'identifie avec ce personnage. Donc, assassiner le personnage, c'est vraiment casser le film et repartir sur toute autre chose. Tandis que dans les slashers, mais dès la série des Vendredi 13, qui sont faits après Halloween, on a déjà des références. Parce que c'est très codifié. Donc on a déjà des références. Il y a souvent, dans Vendredi 13, 3, par exemple, il y a un jeune homme qui est fan de films d'horreur et qui fait des faux, qui simule des assassinats pour faire des blagues. Et ça, c'est très courant déjà dans les années 80. Donc le côté référentiel apporté par Scream, faudrait le nuancer quand même, parce que c'était déjà là, en tout cas déjà là de manière latente. Ce qu'a apporté, je crois que ça vient pas de Craven, mais plutôt du scénariste Kevin Williamson, ce qu'a apporté Kevin Williamson, c'est tout simplement une systématisation. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas un personnage périphérique qui va apporter un peu de réflexivité ou de jeu sur les codes, c'est l'ensemble du film qui va être conçu comme ça. Mais d'une certaine manière, ça généralise quelque chose qui était déjà là, pas dans le film d'horreur en général, parce que ça, il y a vraiment beaucoup de courants ou beaucoup de manières de faire très différents, mais dans le slasher.
Je vais revenir à Halloween, parce que Halloween, c'est de Carpenter, c'est le premier film qui est cité dans Scream 1, donc c'est vraiment la première référence qui apparaît dans toute la série des Scream. Vous disiez que tout était en germe de ce point de vue-là, de la reproductibilité du film d'horreur. À quoi ça tient justement, techniquement, dans le film ?
À quoi ça tient dans Halloween ? Mmh. Ça tient à l'effort de stylisation de Carpenter, je crois. Et la stylisation chez lui, ça passe par l'abstraction. Alors on va avoir un tueur qui va être masqué et ce sera un masque neutre. Et il n'y a rien sous le masque. Et de même, les victimes seront un peu indifférenciées. Ce sont de jeunes lycéennes, de belles jeunes lycéennes qui pourraient être interchangeables. Et puis il pourrait y en avoir plus ou moins. C'est pas simplement les personnages, ce sont aussi les décors. La banlieue avec ses pavillons qui se ressemblent tous. Et sillonné par des rues de manière très géométrique. Et le film de Carpenter explore ça de manière assez virtuose, mais vraiment en faisant ressortir l'uniformité. Donc il n'y a pas simplement des conventions à l'époque d'Halloween, d'ailleurs ce ne sont pas encore des conventions puisque c'est le premier film, mais il y a aussi donc des conventions sur le récit, mais il y a aussi des personnages et des décors qui sont eux-mêmes indifférenciés, abstraits. Alors, les films suivants ne sont pas aussi brillants que Halloween de ce point de vue-là, mais je pense que c'est ce qui est à l'origine de cela.
Bertrand Mandico, vous êtes réalisateur, vous avez réalisé plusieurs courts-métrages dans lesquels il y a aussi des effets de mise en abîme. Je pense par exemple à Living Still Life, qui est un court-métrage dans lequel une femme part à la recherche d'animaux morts pour les mettre en scène. Donc elle les récupère, elle les photographie, elle en fait des petits films d'animation. Vous venez d'ailleurs de l'animation. C'était évident pour vous de reproduire ce type de geste propre au genre ?
Avec ce film, c'était un petit peu l'idée, c'était pour en finir avec le cinéma d'animation ou une réflexion sur ce que l'animation peut apporter et pousser cette idée au paroxysme, donner l'illusion de la vie, quoi. Donc, pour le coup, on a travaillé avec des vrais cadavres d'animaux qui ont été animés image par image pour donner l'illusion de la vie. Oui, voilà l'idée effectivement de la mise en abîme et peut-être un processus inversé par rapport à l'horreur, c'est-à-dire quelque chose qui est a priori horrible qui devient beaucoup plus paisible.
On écoute tout de suite Alain Boilla qui travaille sur le rôle du téléphone dans le cinéma et qui parle du téléphone dans Scream. Il était au micro de Boris Pinault.
Le téléphone fait penser d'abord que c'est un rapport de distance, c'est dans le mot téléphone, et en fait le jeu principal là, c'est que cette distance supposée est en fait une présence physique qui à tout moment peut se manifester dans les normes du slasher, avec, comme on sait, l'arme blanche, c'est pas non plus un hasard, hein, c'est pas tirer avec une arme à distance, mais c'est véritablement être très proche du corps et le mettre à mal. Et c'est vrai que Wes Craven a fait ça de manière, peut-être que l'image la plus emblématique, c'est dans Freddy, lorsque la langue sort du téléphone, et que donc dans le cauchemar, ou plutôt entre le cauchemar et la réalité, Freddy passe par le téléphone, utilise la technologie pour arriver dans le quotidien, et justement, c'est pas juste une voix désincarnée, mais la présence de la langue renvoie tout de suite à ce côté, évidemment, dégueulasse, si on veut, gore, qu'on a systématiquement chez lui, et on a tout à coup cette présence corporelle, alors que la distance est postulée par le téléphone, et c'est ça surtout, cette surprise, finalement, que provoque l'utilisation de la conversation téléphonique chez lui.
Oui, vous parlez justement de Freddy, et je me posais la question de savoir s'il y avait une continuité justement entre la phobie du téléphone qu'on trouve dans Freddy avec le harcèlement, enfin Heather, le personnage principal, se croit harcelé par un désaxé, et 2 ans plus tard dans Scream, c'est par le téléphone que commence la menace. Je crois que vous parlez de téléphobie.
Oui, c'est vrai qu'on parle souvent au cinéma de technophobie, c'est-à-dire que le cinéma, de manière paradoxale, alors qu'il repose sur la technologie, a plutôt dans les représentations dominantes la tendance à représenter de manière négative la technologie. Et le cinéma d'horreur, alors soit on est hors technologie, parce qu'on a des téléphones portables, mais justement ils fonctionnent pas, ou des choses comme ça, ou alors c'est par le téléphone lui-même, ou la technologie elle-même, que passe la menace. Et ça, c'est vrai que c'est un des aspects récurrents chez lui. Ça pourrait être autre chose. Avant, c'était la télévision, par exemple, dans Shocker, en 89, où finalement, il y a une course-poursuite comme entre deux mondes, avec une figure très pré-Freddy, où finalement, on passe d'une chaîne à l'autre dans un téléviseur. Donc, là aussi, c'est vraiment cet imaginaire de la technologie qui, normalement, est du côté du virtuel, si on veut, enfin, de la représentation. Et c'est un jeu sur la présentation où finalement c'est pris à la lettre, ce qui devrait être diffusé à distance est tout à coup présent ici maintenant et dans une proximité effrayante. C'est évidemment la base un peu du unheimlich, disons, hein, du fantastique, qui est de tout à coup être dans le domestique, dans l'intime, alors que on pensait que c'était l'autre. Tout à coup, l'autre est très présent et il utilise souvent la technologie à cette fin. Donc c'est souvent des technologies qui rapprochent l'éloigné, finalement, hein, qui normalement peuvent être utilisées de manière positive. Dès le cinéma des premiers temps, Griffith, avec tous ses sauvetages de dernière minute, utilisait beaucoup téléphone et télégraphe. Mais là, c'est un renversement, c'est le versant, si l'on veut, anxiogène de cette situation.
Et en allant plus loin justement que la seule conversation téléphonique et en parlant carrément de la technologie, il y a quand même un monde entre la stupéfaction de Sidney Prescott face au téléphone mobile de son petit ami Billy Loomis dans Scream 1. On est en 96, le portable est encore quelque chose d'assez rare. Et il y a un monde entre cette stupéfaction-là et les générations selfie du Scream 4 en 2011. Je me demandais qu'est-ce que la mise en scène des moyens de communication justement dans la série des Scream dit du propos de Craven sur la société et sur la technologie en général.
Je ne sais pas si de ce point de vue-là, Craven se distingue beaucoup, même des variantes, je ne sais pas, asiatiques, qui passent par d'abord la vidéo, puis des chaînes câblées, etc. Enfin, que ce soit, je ne sais pas, Kurosawa, ou les The Ring, ou des séries comme ça. C'est quand même avant tout une représentation technophobe, c'est-à-dire que ces moyens, ces moyens de télécommunication sont des outils de menace parce que on croit que ça peut être une aide, mais chaque fois que ça peut l'être, ça fonctionne pas. Par exemple, dans Scream, on croit repérer avec le repérage GPS, et puis en fait, les tueurs finalement maîtrisent toujours ces codes et les détournent toujours. Donc en fait, tout ce qui pourrait être, ce qui est pas loin de ce qui se passe dans la réalité avec piratage, etc., il y a toujours un coup de retard, des lois et de la des représentants de l'ordre par rapport à l'utilisation de ces technologies. Et donc, finalement, on est toujours piégé par ce système. C'est-à-dire que c'est vraiment un instrument d'agression. Et quelle que soit finalement l'évolution technologique, alors c'est vrai que c'était très fort en 96 de poser le téléphone portable de manière aussi centrale, avec des préoccupations comme le « Où es-tu ?» par exemple, « T'es où ?» qui était encore un petit peu la particularité du portable. C'est pour ça qu'on joue beaucoup sur la question de l'espace. c'est un élément de base pour des slasher movies que de jouer sur le hors-champ, évidemment. Mais là, ce hors-champ qui passe par une présence vocale, c'était vraiment une idée assez géniale de la systématiser comme ça autour du téléphone portable. Mais je dirais qu'après, cette étrangeté, elle reste parce qu'on est tellement dans la surenchère, finalement. Il y a encore le lien avec l'image, évidemment, après, les caméras, cette simultanéité différée, je crois que c'est dans le 3, mais je ne suis plus certain, où on filme une partie qui se passe dans une maison, mais il y a l'image arrivant différée, donc c'est la synchronisation son-image, etc. Il y a énormément d'éléments comme ça, mais qui sont finalement chaque fois au détriment, sont chaque fois destructeurs, finalement, et agressifs.
Allô ?
Allô ?
Oui, j'écoute.
Qui est à l'appareil ?
Pourquoi ? Qui demandez-vous ?
Je suis à quel numéro ?
C'est vous qui avez appelé, vous devriez le savoir.
Ben non, je ne sais pas.
De toute évidence, vous vous êtes trompé.
Vraiment ?
Oui, c'est pas grave, ça arrive.
Emmanuel Levauffre, un commentaire sur la VF peut-être ?
Non, j'étais surpris, je crois que c'est la première fois que je l'entends en VF.
C'est étonnant d'ailleurs parce que la voix qu'ils ont choisie pour jouer la voix du psychopathe au téléphone, qui est quand même une voix extrêmement importante, comme le disait Alain Boilat, il y a un jeu sur la voix, sur ce qu'on entend mais qu'on ne voit pas. En anglais, enfin dans la version originale, c'est une voix très très glamour, très mystérieuse, très séduisante. Dans la version française, on perd totalement cet aspect-là.
En effet, oui, il y avait même un acteur, j'ai oublié son nom, mais il y a un acteur qui fait la voix dans toute la franchise, je crois, hein, c'est le même.
Et sur ces questions de technologie qui font peur au lieu de rassurer, c'est vraiment une particularité de Scream et de Wes Craven en général, de son cinéma ?
J'irai pas jusqu'à parler d'un discours technophobe ou d'un discours sur la technologie. Je suis pas sûr qu'il y ait un discours dans Scream ou dans les films de Craven. En revanche, il y a un discours sur la technologie en tout cas. En revanche, il y a un long goût pour le détournement des objets domestiques, qui commence dès la dernière maison sur la gauche, puisque les parents, pour se débarrasser des agresseurs de leur fille, vont utiliser tout ce qu'ils trouvent dans leur propre maison, et ce sera une des premières utilisations, pas la toute première, mais de la tronçonneuse à des fins meurtrières, mais la tronçonneuse était aussi un outil domestique quand même, de jardinage. Alors, je crois que l'utilisation du téléphone, il faut la voir dans cette perspective-là. On trouve toujours cela. Et alors, il y a quelque chose qui est très fréquent, qu'on retrouve aussi dans Les Griffes de la Nuit, c'est que on va piéger la maison et il y a des manuels américains, semble-t-il. Moi, j'en ai jamais eu sous la main, mais et Wes Craven a dit qu'il l'utilisait toujours, qu'il avait un de ses manuels et qu'il utilisait toujours ça dans ses films pour piéger la maison, pour essayer de capturer ou de neutraliser l'agresseur éventuel. Sur le téléphone, en revanche, il y a quelque chose de très fort et qui est là encore pas tout à fait une invention de Craven et de Kevin Williamson, mais qui reprend une tradition et qui est, je crois, une tradition liée au slasher. C'est lié à une légende urbaine autour de la babysitter et de l'homme qui lui téléphone. Je crois que ça vient d'un fait divers au début des années 50 aux États-Unis, mais c'est devenu une légende urbaine. L'homme, la babysitter reçoit un coup de téléphone lui demandant à chaque fois « Avez-vous vérifié les enfants ? Avez-vous vérifié les enfants que tout va bien ?» etc. Et elle commence à angoisser, elle se rend compte que le coup de téléphone est passé de l'intérieur de la maison. Donc sur ce que disait l'intervenant au sujet de la différence entre la distance liée au téléphone et la proximité, je crois que c'est déjà là. Et c'est sans doute une légende urbaine qui fait partie de la généalogie d'Halloween, puisque il y a eu un petit court-métrage dans l'université de cinéma que fréquentait Carpenter quelques années avant, qui n'a pas été réalisé par Carpenter, autour de cette légende urbaine. Et alors, il n'est pas question de téléphone dans Halloween, mais en revanche, il est question d'une babysitter. Un an ou deux après Halloween, sort un excellent film qui est peut-être que je vois comme une critique d'Halloween, qui s'appelle When a Stranger Calls, où la première demi-heure, extrêmement angoissante, reprend, alors cette fois la légende urbaine, c'est-à-dire qu'on a une babysitter et elle reçoit des coups de téléphone et on se rend compte que le tueur est dans la maison. Je crois que Scream, c'est le prolongement et dans le prolongement de tout cela. Et par ailleurs, si je peux parler de mon expérience de spectateur en voyant les Scream, j'avais été très frappé en voyant Scream 2 de l'utilisation des téléphones portables. Alors pas Scream 1, mais Scream 2, parce qu'il y a une scène sur le campus dans Scream 2 qui est absolument étonnante, où on prend conscience de la démocratisation des téléphones portables, puisqu'on reçoit un coup de téléphone, donc on se dit il est sur le campus et on va aller regarder, et en fait tout le monde a un téléphone portable et tout le monde est en train de l'utiliser. Et je m'étais dit, c'est la première fois que je vois le téléphone portable vraiment utilisé de manière fictionnelle ou dans un récit, c'est-à-dire détourné pas simplement de manière fonctionnelle, etc., mais vraiment détourné, et j'avais trouvé ça, cette séquence, assez géniale.
On va rester de ce point de vue du spectateur. Ce qu'implique cette mise en abîme permanente, c'est aussi le fait que le spectateur n'a plus vraiment peur, parce qu'on ne sait jamais, quand on arrive à la réalité niveau zéro, le début de Scream 4, de ce point de vue, est très impressionnant, parce qu'il y a une série vertigineuse de mise en abîme. On ne sait jamais quand va réellement commencer le film, où est la réalité, entre guillemets, du film. Est-ce que Wes Craven a poussé le cynisme tellement loin qu'on ne peut plus avoir peur au cinéma quand on va voir des films d'horreur aujourd'hui ? Pascal Français.
Moi, je ne pense pas qu'il ait poussé le cynisme à ce point-là. Enfin, en tout cas, bon, c'est certain que ce cinéma d'horreur qui est fabriqué par, produit par des grands studios, comme des films comme Scream, reste, on va dire, relativement inoffensif et donc joue beaucoup sur les conventions et plutôt que sur une volonté d'innovation. Mais je pense qu'il y a toujours des films qui peuvent réellement faire peur, quoi. Bon. Mais tout ça, je crois aussi, on parlait de technologie, participe aussi du fait que le film est sorti donc en 96, fin des années 90, où il y a une espèce de bouleversement culturel et social, avec une remise en cause de l'impact des médias aussi, donc du cinéma également, qui finit par bouffer tout et par donner une vision déformée de la réalité. Bon, quand on pense à la guerre du Golfe, on avait quelqu'un comme excusez-moi. Je ne sais pas retrouver son nom, qui avait écrit un livre, La guerre du Golfe n'a pas eu lieu, un grand penseur français, Baudrillard, voilà, c'est ça. Parce qu'en effet, on avait l'impression que c'était du cinéma, cette guerre, et qu'elle n'avait plus aucune réalité. Parce que l'emprise des médias, la façon dont tout est filmé sans arrêt, montré et peut-être bidouillé, on a l'impression que la réalité n'existe plus. Et dans ce contexte, Scream est arrivé dans ce contexte-là, où il y avait aussi c'était la période des grands procès, comme ceux d'O.J. Simpson, qui étaient retransmis en veux-tu en voilà la télévision, et donc sur une espèce d'inquiétude par rapport à ça et de saturation. Et il prend finalement Craven le cinéma d'horreur pour réfléchir là-dessus et pour faire où est la réalité, où est la fabrication, où est le simulacre et où est le réel. Et le film change un peu là-dessus par rapport au slasher traditionnel, et même à ce que Craven avait fait avant dans des films très auto-réflexifs comme son dernier Freddy sort de la nuit, où il était aussi question d'un film dans le film, enfin en résumant un peu grossièrement. Donc le changement de Scream par rapport à ça, c'est que Scream pose la question réalité, où est le floutage, où est le clivage entre la réalité et le simulacre, alors que les films précédents étaient entre la réalité et le fantasme et le rêve, comme par exemple Freddy. Bon, là on est vraiment dans l'idée que quelque part le fantasme n'existe plus, tout est réel et en même temps tout est faux, tout est film, ma vie est un film, les personnages répètent ça sans arrêt dans le premier Scream et dans les suivants aussi. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment, et ça aussi c'est quelque chose qui est en lien avec l'idée de postmodernisme, parce que c'est une grande interrogation qui existe toujours, enfin maintenant je dirais plus que jamais, qui n'arrête pas de se poser, quoi. Bon.
Bertrand Mandico, depuis Toulouse.
Oui. Moi, je pense que Wes Craven n'est pas dupe dans ses derniers films. Il ne cherche plus à faire peur, mais vraiment à jouer sur une idée d'écho, d'écho de l'horreur ou d'écho du réveil ou d'écho de la prise de conscience. C'est ce que j'aime beaucoup, moi. Je pense qu'il a commencé ça avec la série des Freddy. C'est des films en poupée russe, quoi. Dans Freddy, c'est ce personnage qui hante les cauchemars, et il y a cette idée de réveil dans le réveil dans le réveil. Donc les personnages qui n'en finissent pas de se réveiller, qui sont encore dans leurs cauchemars. Dans Scream, c'est la même chose. C'est-à-dire que on voit un début de film, les personnages sont en train de regarder le film, mais ce qu'on regarde, c'est un film de personnages qui regardent des films, etc., etc. Donc, cette idée d'écho dans la nuit, j'allais dire, c'est un chant du cygne, quoi.
Est-ce qu'on peut, Pascal Français, à l'inverse, analyser le succès justement de nouvelles franchises comme Saw ou comme Conjuring là qui viennent de sortir, comme des retours à la peur primaire entre guillemets? C'est-à-dire que ce sont des films qui font vraiment peur par rapport à tout un système qui a été inauguré par Scream, mais qui a été après Scary Movie ou d'autres films vraiment résolument parodiques.
Oui, je pense très nettement qu'il y a un renouveau. Pour moi, le torture porn a amené un renouveau là-dessus et un retour à une peur. Une peur brute, quoi, sans avec très peu d'humour, ou alors un humour tellement noir que ça en devient absolument monstrueux, et que le torture porn en plus est arrivé donc dans une période où il y avait tout un retour, bon, à la fois donc du slasher suite au succès de Scream, mais aussi un retour vers un cinéma, je dirais de plus proche du fantastique, une espèce de fantastique romantique gothique, avec des films comme Les Autres, et toute cette série de films d'histoire de fantômes, bon, où on était de plus en plus dans un cinéma nostalgique, et on va dire, je vais pas dire aseptisé, mais en tout cas qui ne faisait plus peur, ou alors
premier degré.
Voilà, qui était assez gentil, assez calme. Et donc, je pense qu'il y a une réaction de la part de certains cinéastes, qui étaient des cinéastes jeunes, donc comme James Wan et Lee Ross, qui commençaient tout juste quoi à faire leur boulot, et pour revenir à un cinéma plus viscéral, plus violent et finalement plus effrayant, même si on n'est plus vraiment dans la peur psychologique, encore que. Quand même, parce qu'on est aussi sur une notion d'appréhension de la torture qui va arriver, parfois elle n'arrive pas, bon, donc il y a une dimension psychologique. En tout cas, on n'est radicalement plus dans une dimension auto-réflexive, parodique ou ironique. Voilà, je pense qu'il y avait un besoin de ça. Maintenant, j'ai tendance à croire qu'à l'heure actuelle, on revient à nouveau vers une forme de retour au gothique, quoi, quelque part, quand on voit Conjuring ou tous ces films qui reprennent des thématiques surnaturel, fantastique. Quoi.
Quand on parle en ce moment de Conjuring 2 dans les journaux, c'est surtout pour parler des débordements que le film implique dans des salles, mais c'est un vrai sujet parce que ça fait quand même plusieurs années que ça revient, cette histoire de salles qui déprogramment les films d'horreur d'été type Conjuring. Il y a eu Annabelle en 2014, ça a été un gros truc, une grosse chose. Annabelle, c'est une poupée qui se transforme et qui tue les gens, et ce sont des films qui plaisent beaucoup aux jeunes qui viennent en bande dans les cinémas, et du coup les cinémas arrêtent les séances, les gens se tapent dessus à l'issue de la séance. Ça devient vraiment quelque chose de en tout cas ça fait parler les journaux. Je sais que ça vous énerve, Pascal Français, cette histoire.
Oui.
Pourquoi ça vous énerve? Est-ce que c'est pas intéressant d'en parler aussi?
Non,
du fait que ça reste un moment de catharsis sociale.
Bien sûr,
pour
ça,
une
c'est intéressant d'en parler.
De
maintenant, j'aimerais voir avoir assisté véritablement à une de ces séances catastrophiques, parce que bon, je pense que, enfin, je sais pas, je crains que ça n'était un petit peu exagéré, toi, tout ça. Moi, je sais que quand je vais dans un cinéma, je vais voir un film qui n'est pas un film d'horreur spécialement. Il y a des incivilités sans arrêt, des gens qui téléphonent, je vois les portables allumés, des gens qui sortent, qui rentrent ou qui vont discuter. Lorsque je suis allé voir Elle de Paul Verhoeven, il y a un couple qui n'arrêtait pas de discuter pendant les trois premiers quarts d'heure du film, quoi. Bon. Et donc, je pense que tout ça est une exagération, sans doute assez importante. Et puis, bon, c'est un peu, j'avais écrit un article là-dessus il n'y a pas très longtemps. Moi, je me pose toujours la question, si y a des jets de pop-corn dans une salle de cinéma, on va arrêter la diffusion du film. Enfin, on va fermer les salles. Je veux dire, quand il y a des morts sur un stade de foot, on n'arrête pas le match, quoi. Vous voyez, on ferme pas le stade suite à ça. Je pense qu'il y a une démesure là-dessus et que, encore une fois, le cinéma d'horreur est un peu le bouc émissaire de ça, quoi.
Un grand merci à vous, Emmanuel Levauffre. Wes Craven, ce sera donc à paraître chez Capricci. Je crois que ça paraîtra le jour d'Halloween, pour la cohérence éditoriale.
Si ce sera le jour d'Halloween, mais ce sera autour d'Halloween.
Autour d'Halloween. Pascal merci. Français, Torture Porn, l'horreur postmoderne, apparu déjà chez Rouge Profond. Merci beaucoup à vous, Bertrand Mandico. Vous étiez en direct de Toulouse. On salue et on remercie les équipes de France Bleu qui ont permis ce duplex. Et merci aussi à Alain Boila qui était au téléphone au micro de Boris Pinault. Un ouvrage collectif est à paraître chez L'Âge d'Homme, autour de la conversation téléphonique au cinéma.
France Culture, la grande table d'été, Lucille Comeau.
Il est 13h30, dans quelques instants ce sera l'heure du portrait. Celui d'aujourd'hui c'est Nicolas Darrow qui vient d'entrer dans le studio. Mais tout de suite, c'est la session musicale brillamment orchestrée tout ce mois de juillet par Boris Pinault. Aujourd'hui c'est Rupert Pupkin qui s'est installé dans le studio. Derrière ce nom c'est Emmanuelle de Stremau. Elle a fait ses armes au cinéma. Elle emprunte d'ailleurs au film de Scorsese La Valse des Pantins, le nom du personnage qui donnera naissance à sa musique. Quelque part entre Nick Cave et PJ Harvey, elle invente la chanteuse Rupert Pupkin. Vous jouez en direct dans notre studio, c'est à vous.
Every day, if you get close to my soul, I can feel your breath. I can even touch your mouth. I can see you clearly down around all the bodies. You're alive in my mind. You're alive down inside. Through the bomb, 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 I can save you.
Était en direct dans notre studio de la Grande Table d'été. Le titre, c'était Save You. L'album Run de Rupert Pupkin est disponible depuis juin dernier chez Microculture. Et bonjour Nicolas Darrow.
Bonjour.
Vous êtes artiste plasticien, un parcours qui commence à la fin des années 90. Vous travaillez beaucoup la figure animale, l'automate, la machine, le mélange entre organique et technologique. On peut voir en ce moment à la Maison Rouge à Paris une exposition monographique intitulée « Règne analogue ». Près de 80 œuvres, dont une vingtaine de nouvelles pièces, des sculptures, des installations, des objets automatisés. Je demande ça à chaque fois aux artistes qui ont une exposition monographique. Est-ce qu'organiser cette exposition, qui montre donc une grande partie de votre travail, vous a permis de comprendre des choses nouvelles sur votre œuvre et sur sa cohérence, Nicolas Darrow?
Oui, c'était même le résultat le plus inattendu pour moi. Évidemment, les projets de ce format-là, moi, j'en ai pas une grande habitude. Et toute l'année qui vient de passer a été assez focalisée sur la résolution de toute une série de problèmes assez pratiques. Et en fait, l'irruption d'un sens nouveau et de choses inattendues pour moi est arrivée assez tard. Ouais.
Et c'était quoi ce sens inattendu, par exemple?
En fait, principalement, ça a été justement l'irruption de ce titre, le fait de trouver une forme de dénominateur commun, en fait, à quand même quelques années de travail qui pourrait m'apparaître assez disparate. Et qui finalement ont une forme d'organicité, voilà, qui m'a moi-même surpris.
Il y a un jeu dans ce titre, règne analogue, on attend évidemment règne animal, et puis ça achoppe, ça devient autre chose. Ouais. L'analogie, elle serait de quelle nature?
C'est en fait le terme de règne, c'est ce qui m'a intéressé, c'est justement sa polysémie, c'est-à-dire le fait que ça fasse référence à une sorte de royaume imaginaire et en effet aux différents règnes de la nature et par rebond en fait à ce que je pouvais voir moi de naturel par certains aspects dans les objets que je fabrique et auxquels je me plais à prêter en fait des caractéristiques qui sont propres à celles du vivant. Et justement le fait de coller en fait cette espèce d'intitulé comme ça de règne avec la figure de l'analogie. C'était d'une part une référence en fait, à ce roman de René Dommal qui s'appelle Le mot analogue, et qui est une histoire construite autour d'une idée d'une crypto-géographie en fait, et d'une montagne cachée, un peu mystique. Hein. Et puis c'était aussi une façon en fait, de parler du processus de fabrication en fait qui se passe beaucoup à l'atelier pour moi parce que je fabrique tous mes objets et de quelle manière ils procèdent souvent par glissement en fait de choses qui peuvent ressembler en fait à une démarche scientifique à des choses qui sont beaucoup plus du registre de l'intuition ou de l'empathie en fait pour les sujets qu'on travaille.
Alors, une des premières pièces, je crois, de l'exposition, et du coup, peut-être une de vos premières pièces, s'appelle « Collection d'insectes ». Ça date de 98. Ouais. Donc, de loin, on a l'impression que c'est une collection classique de petits insectes épinglés dans une boîte en bois, comme une collection d'entomologues. C'est vraiment ça que ça produit. D'ailleurs, Antoine de Galbert, qui dirige la Maison Rouge dans la préface du catalogue, évoque son goût naturel de collectionneur d'art pour ce type aussi de collection, qui est une collection d'entomologie. En quoi est-ce que ça pourrait être pour vous un manifeste ou du moins un projet artistique, et surtout comment pratiquement vous avez fabriqué cette première œuvre-là, Nicolas Darrow?
Je ne sais pas si c'est un manifeste, mais effectivement c'est un fonctionnement sur lequel je suis retombé très souvent, c'est-à-dire le fait de se fixer pour programme la fabrication d'une longue série et de le relier à quelque chose qui est très quotidien en fait. Et en l'occurrence cette collection, elle s'est beaucoup faite sur des coins de table en mélangeant en fait des restes de déjeuner, des objets qui pouvaient traîner, une sorte de fouillis comme ça de la vie domestique. Et il y a des espèces de petites créatures un peu à la Jérôme Bosch qui sont nées de ça et qui, de façon un peu fortuite, sont mises à ressembler à des insectes. Et ensuite, ça m'a entraîné vers des choses qui étaient beaucoup plus en prise avec ce monde-là. Mais au départ, en fait, c'était ça. En fait, c'était l'espèce de pulpe du quotidien et à la fois d'une matière aussi parfois littéraire. En fait, certains de ces objets en fait sont couverts d'inscriptions et voilà, en fait le fait d'assembler un peu à la va-vite comme ça des choses qui sont hétéroclites.
On recevait au début du mois, autour de l'exposition Le Grand Orchestre des Animaux qui se tient en ce moment à la Fondation Cartier, plusieurs artistes qui se sont emparés de la figure animale. Il y en a beaucoup cet été, c'est étonnant, il y a beaucoup d'expositions en lien avec l'animal. On avait Agnès Ross en plateau et aussi Quentin Garel qui a travaillé sur ces sculptures, vous les connaissez, qui sont cachées en fait dans la galerie d'anatomie du Muséum d'Histoire Naturelle, et donc on les confond avec les vrais animaux. Ils disaient tous les deux que cette inspiration venait d'un goût prononcé pour l'animal au départ, et notamment à quelque chose qui remontait à l'enfance. Est-ce que c'est votre cas à vous aussi, Nicolas Darrow ?
Oui, tout à fait. Ouais, moi j'ai eu une enfance, j'ai grandi dans un endroit assez sylvestre et assez sauvage, donc j'ai passé beaucoup de temps à observer, en fait, à chercher à voir des animaux qui souvent refusaient de se montrer, donc étaient des présences comme ça assez, assez fantomatiques. Mais après, moi, évidemment, je me suis souvent interrogé sur l'attrait, en fait, de cette figure. Et je pense que dans mon cas, c'est plus une modalité d'habitation du milieu qui m'intéresse, c'est-à-dire une façon qu'a chaque espèce animale d'être très singulière dans sa présence au monde. Et en ça, je pense que ça fait miroir aussi justement à ce sentiment de singularité qu'on peut avoir quand on essaie de développer un travail comme ça, et dans une forme, parfois une forme de solitude et de justesse à la fois avec ce qu'on fait. Et je trouve que c'est un truc que dégagent les animaux dans leur façon à chaque fois très particulière d'avoir un lien entre leur enveloppe corporelle et leur milieu, parce que souvent un animal c'est l'assemblage d'un milieu et d'une forme. Et donc voilà, et c'est aussi l'extrême variété qui est intéressante, parce que ça parle en fait de quelque chose qui est plus large que juste chaque espèce séparée, quoi.
Je sais que vous travaillez régulièrement en lien avec des textes scientifiques, vous lisez de la littérature scientifique, quoi par exemple ?
Oh, c'est assez disparate, mais mon grand texte de science, en fait, c'est le poème de Lucrèce, de la nature. Ouais, ça, c'est quelque chose à quoi je reviens beaucoup, parce que justement, c'est une forme d'encyclopédie sur le mode lyrique, et c'est une forme qui m'obsède un peu, parce qu'il y a cette façon de produire de la connaissance et à la fois d'émotion, en fait, d'être dans une vibration tout le temps, de la curiosité et de l'émerveillement. Sur un point de bascule aussi tout le temps, avec une forme d'inquiétude, en fait, qu'on peut avoir à ne pas comprendre l'ensemble du cosmos, quoi. Et oui, c'est un texte de science qui est très important pour moi. Et après, je me documente, mais je pense que c'est plus pour chercher des stimulations que par un intérêt à proprement parler pour la science, quoi.
On peut voir à la Maison Rouge une pièce intitulée La Louve, qui est clairement en référence à la louve qui donna naissance aux deux fondateurs de Rome et qui est elle-même extrêmement représentée. Donc selon la mythologie romaine, c'est une figure métallique. De son flanc sortent des fibres optiques. Il y a aussi une barque dans l'exposition dans laquelle un être recouvert d'un voile est installé, et devant lui une tête de chien démesurément grande piquée de flèches, une sorte de charron qui aurait tué Cerbère. Oui. Dans quel rapport au mythe, à ces mythes-là, vous situer, Nicolas Darrow ? C'est ironique ? C'est une reprise ?
Non, pas du tout. En fait, c'est... pour moi, c'est des structures, en fait, narratives qui permettent d'organiser des formes. Voilà, le mythe de la fondation de Rome, la façon dont, justement, ces grandes figures animales sont reliées au vide qui existe entre les étoiles... Oui, la façon dont on figure le voyage à travers le Styx, et dont on transforme justement l'idée du passage d'un monde à l'autre, comme ça, par une traversée d'un liquide. C'est à la fois quelque chose qui est du registre romanesque et du registre de la physique pure, en fait. Et il y a ces deux choses-là dans le mythe. Et puis, c'est une structure qui a une forme d'universalité, donc qui peut être élargie à plein de domaines. De la même manière qu'une œuvre d'art réussie, elle est ouverte, en fait, elle peut être saisie par, en fait, par n'importe qui va y trouver un sens, voilà, à sa manière, qui fera écho à son histoire. Et, donc en effet, ouais, les mythes, c'est bien pratique pour ça.
Chez vous, l'animal, il est toujours lié à la machine ou à l'artefact. Je pense à la série des Dronecast que vous avez réalisé d'ailleurs sur plusieurs années, qui sont des créatures hybrides mi-insectes, mi-machines. Comment est-ce que vous les créez pratiquement, Nicolas Darrault, dans votre atelier, ces petites machines-là ?
Bah, c'est un peu ce que je disais à propos de la collection d'insectes, donc qui a marqué un peu le début de ces séries sur les drones. J'ai une grande table et en fait tout se mélange dessus, et puis plus la série avance, plus la table est recouverte d'éléments, et ça devient comme une sorte de soupe en fait, d'où peuvent sortir des assemblages, mais en fait plus la table est chargée d'objets, plus ça fonctionne bien, ouais.
Preparei uma roda de samba só pra ela, mas se ela não sambar, isso é problema dela. Entreguei um palpite seguro só pra ela, mas se ela não jogar, isso é problema dela. Isso é problema dela. Isso é problema. Problema dela, problema dela. Tô cansado de andar por aí curtindo o que não é, preocupado em pintar na jogada que dá pé. Só que tem que eu tô numa tão certa que ninguém me diz quem eu sou, o que devo fazer, o que eu não fiz.
Nicolas Darrault, on demande tous les jours à nos invités de choisir un son qui lui fait penser à l'été. Vous avez choisi ça. Qu'est-ce que c'est et pourquoi ? Bon, on peut comprendre que ça vous fasse penser à l'été, mais qu'est-ce que c'est ?
Alors donc c'est une chanson de Doris Montero qui s'appelle E Iso Ae. Et c'est essentiellement sa voix en fait qui me plaît beaucoup chez Doris Montero. Elle a une voix. Et une forme de candeur et de mélancolie à la fois. Et ce morceau, j'aime beaucoup parce qu'en fait, en arrière-plan, il y a un mélange de cet instrument qui s'appelle la cuica et de bruit de bisous. Et ça crée une espèce de glissement entre les sons d'instruments de musique et des sons qui sont beaucoup plus des sons de la nature et qui sont très, voilà, très solaires, très érotiques. Donc, pour moi, c'est l'été.
Quem eu sou, o que devo fazer, o que eu não fiz. Comprei roupa, sapato, sandália só pra ela, mas se ela não usar, isso é problema dela. Aluguei uma roda gigante só pra ela, mas se ela não rodar,
Nicolas Darrault, vous avez fait des études aux Beaux-Arts. Quand vous en parlez, on a l'impression que ça ne vous a pas tellement plu.
Joker.
Ok. Alors, vous étiez intéressé par un atelier en particulier, c'était l'atelier métal. Qu'est-ce que ça vous permettait d'y faire ?
C'était une découverte. En fait, c'était un apport technique qui a débloqué plein de choses dans mon travail. Moi, je faisais de la peinture initialement. Donc. Il y a un ensemble de possibilités qui s'est ouvert avec cet atelier, puis la rencontre des gens qui y travaillaient. En fait, ça correspondait davantage au projet que j'avais en tête sans l'avoir formulé.
Ouais. Ensuite, vous avez travaillé sur des plateaux de cinéma, j'ai lu. Qu'est-ce que vous y faisiez ?
Je faisais des effets spéciaux. En fait.
Il y a, on parlait de films d'horreur tout à l'heure, il y a quelque chose qui rejoint l'horreur dans une partie de votre travail. Ouais. Ces insectes mutants, ces apparitions mouvantes, les fantômes. Je pense par exemple à Providence qui est une sorte de fantôme fabriqué en couverture de survie. Et puis il y a certaines pièces qui sont automates et qui sont assez angoissantes. Je pense par exemple à Adam qui est un homme démembré, ensanglanté, qui parle à une souris marionnette qui est au-dessus de lui, en fait, juché sur une échelle. On écoute un petit extrait.
Hey kid, you hear me? What kind of animal are you? I can't guess. And can I ask a little favor of you? I'm gonna be a bit straightforward, but could you come down 5 minutes and try to glue my piece?
Est-ce que le film d'horreur ou le film d'épouvante, c'est une référence pour vous, Nicolas Darrow?
Ouais, plus ou moins. Bon, en tout cas, ces années cinéma, là, ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était la culture dominante, en fait, des gens avec qui je travaillais, donc ça m'a conduit à m'y intéresser.
Là, la petite souris qui parle, c'est une marionnette, vraiment une marionnette. Je sais que vous vous êtes beaucoup intéressé à la marionnette. Vous alliez voir des spectacles, vous avez lu sur la marionnette. Comment vous vous êtes documenté sur cette forme-là?
En fait, justement, en travaillant sur ces effets, moi, j'étais plutôt dans des équipes qui faisaient des animatroniques, donc des créatures qui sont motorisées et un peu commandées. En fait, ça m'a conduit dans mon travail à développer un peu plus cette partie-là, en fait, d'objets animés, programmés, en fait, avec l'idée de séquences et l'envie aussi qu'il y ait des formes de synchronicité entre le son et le mouvement, en fait. C'est une chose dont j'avais envie, dont j'ai eu envie pendant longtemps. Du coup, en parvenant à cette espèce de résultat, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi la possibilité de lâcher le contrôle sur ces objets, de laisser arriver une forme de hasard. Avec en tête ce petit texte de Kleist sur les marionnettes qui parle de ça, en fait. Voilà, c'est...
Merci beaucoup à vous, Nicolas Darrow. L'exposition qui s'appelle Règne analogue se tient jusqu'au 18 septembre à Paris, à la Maison Rouge. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, il existe un catalogue. Et je précise aussi que votre site est très bien fait et très complet. Il est 13h, passé de 52 minutes sur France Culture. Comme tous les vendredis, on retrouve la chronique en partenariat avec le JDD, les coulisses d'un événement. Aujourd'hui, Marie-Laure Delorme raconte le producteur Charles Gilbert.
Bonjour. Pour les coulisses d'un événement, je vais vous parler aujourd'hui du producteur Charles Gilbert et du prochain film de Denise Gomdze-Erguven. Le producteur de l'avenir, de Mia Hansen-Love, récompensée à Berlin, de Personal Shopper, d'Olivia Sayas, récompensée à Cannes, et de Mustang, de Denise Gomdze-Erguven, récompensée au César, connaît une année 2016 flamboyante. Charles Gilbert a produit et porté Mustang jusqu'à la course à l'Oscar du meilleur film étranger. Succès public, nombreux prix, ferveur critique. Il a mouillé sa chemise pour un film sur 5 jeunes sœurs turques en lutte contre le patriarcat de leur pays. Il va produire le prochain film de Denise Gomdze-Erguven, Kings, dont le tournage doit commencer avant la fin de l'année. Ils en sont à la pré-préparation et à la recherche de financement. Kings est une coproduction franco-canadienne avec Ali Berry et Daniel Craig en tête d'affiche. La réalisatrice franco-turque de 38 ans porte ce projet en elle depuis 10 ans. Elle est aujourd'hui auréolée du triomphe de Mustang. Le film Kings se déroule durant les violentes émeutes raciales de 1992 à Los Angeles, provoquées par l'acquittement des 4 policiers accusés d'avoir tabassé l'automobiliste afro-américain Rodney King. 6 jours d'émeutes, 55 morts. Une mère de famille, jouée par Ali Berry, prend sous son aile un groupe d'adolescents défavorisés. Un des rares habitants blancs du quartier, joué par Daniel Craig, lui vient en aide pour empêcher les adolescents de s'abîmer dans la violence. une histoire d'amour, un sujet explosif dans une Amérique secouée par les tensions raciales, une portée politique. La réalisatrice dit « Kings reste absolument nécessaire ». Qu'il résonne à certains moments davantage que d'autres avec l'actualité n'est pour moi que le sommet plus ou moins immergé de l'iceberg. Le producteur est un maître de chantier. Il accompagne le développement créatif puis financier du projet. Charles Gilibert dit « Au quotidien, on prêche sur un film ». Mais, bien au-delà, l'enjeu d'aujourd'hui est clair, on considère que le public est intelligent ou non, car qu'est-ce qu'on fait du petit espace de parole qui nous est donné ? Il va trouver la réponse. Nous sommes en décembre 2008 et Charles Gilibert est âgé de 30 ans. Une exposition est consacrée au peintre italien Giorgio Morandi à New York. Le solitaire Giorgio Morandi a traité seulement deux thèmes tout au long de sa vie, les natures mortes et les paysages. Les critiques d'art relèvent que l'œuvre peut paraître délavée au premier coup d'œil, mais qu'une coloration singulière apparaît, de tableau en tableau, jusqu'à vous étreindre dans la contemplation. Peindre toujours des natures mortes, produire toujours des films d'auteur, ce jour-là, Charles Gilibert a découvert la beauté de la recherche verticale.
C'était la chronique de Marie-Laure Delorme. Vous retrouverez cette chronique dans le prochain numéro du JDD à paraître ce dimanche. La Grande Table, c'est terminé pour aujourd'hui et c'est terminé pour cet été en ce qui me concerne. Vous retrouverez à ce micro Maïlys Bessery dès lundi avec une table ronde consacrée au début de l'impressionnisme, puis un portrait de l'acteur Jérémy El Khaïm. Un grand merci à toute l'équipe, les étagers de production, successivement Marie-Yvonne Abolivier, Aïssatou Ndoye et Anne-Catherine Lochard. Immense merci à Boris Pinault qui m'a sauvée, notamment dans le tourbillon du Festival d'Avignon. Et surtout, reconnaissance éternelle aux trois stagiaires indispensables qui ont travaillé avec moi, Anna Baron, Lila Bozès et Lucie de Pertuis. À la réalisation aujourd'hui, c'était Alexandra Malka, à la technique Jean-Guilain Meige, au droit d'auteur Julie Guerou. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site de France Culture, la réécouter et la télécharger, et nous suivre sur les réseaux sociaux.